les parquets Marty, nous sommes vers les années 50, 45, 50. Et au moment de la reprise après-guerre, la force hydraulique de l'Allemagne s'était encore utilisée. René Marty.
Il y avait une transmission générale et il n'y avait pas de transformation électrique. C'est une utilisation primaire de la force motrice.
Et ces installations sont encore en place?
Non. Enfin, elles y sont, mais elles sont noyées dans les décombres.
D'accord. L'approvisionnement, ça se faisait comment? Par camion? Ou est-ce qu'à cette époque encore, les gens portaient le bois avec une charrette et une paire de vaches? Non, ça se faisait plus.
Non, je ne me souviens plus des vaches comme moyen d'approvisionnement. Mais depuis le départ, je m'en souviens du camion.
Oui. Gazogène, peut-être, au début, sitôt après-guerre?
Non, gazogène pendant la guerre et immédiatement après.
L'expédition des produits finis, ça se passait comment? Parce qu'il faut rappeler que les ratiers, il y a la ligne de chemin de fer qui va de Périgueux à Mont-Saint-Paul-Libos jusqu'à Agen.
Et la ligne de chemin de fer ne passait pas très loin de l'usine, mais malheureusement, c'était épique d'ailleurs, il fallait charger les camions, les amener à la gare et les transvaser dans les wagons.
Ah, je pensais qu'il y avait une antenne de la voie ferrée, parce que la voie ferrée passe peut-être de l'autre côté de l'Allemance, non? Non, du même côté.
Ah oui, mais il n'y a pas d'embranchement particulier. Il y a d'ailleurs très peu d'industrie qui est même aujourd'hui d'embranchement particulier.
Donc il fallait aller porter les parquets à la gare.
Oui.
Les charger et les décharger.
Oui, et le client devait lui-même aller chercher à la gare la marchandise, la transvaser dans un camion pour la décharger chez lui.
Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'on peut le dire, la SNCF ne transporte rien de vos parquets, quoi.
Absolument rien.
Oui, nous parlions d'énergie, là, alors quand on a abandonné la force motrice de l'Allemance, tout ça a tourné avec des moteurs ou alors c'est à l'électricité?
Le relais a été assuré premièrement par des moteurs diesel et très rapidement par l'électricité.
Oui, à l'heure actuelle, ça doit être encore l'électricité sans doute ou...
Uniquement l'électricité.
Uniquement l'électricité. Bien, alors vous produisiez donc dans les années 50 uniquement du parquet traditionnel et si je comprends bien, il a fallu changer de... trouver des produits nouveaux parce qu'il y avait une évolution de la demande.
Et il y avait tout lieu de prévoir que l'évolution allait se faire. Et nous avons, dans les années 58, emboîté le pas de quelques fabricants au plan national et commencé à débuter la fabrication de parquets dits mosaïques, qui se produit encore à ce jour et probablement pour longtemps, mais dont la période de production a déjà vécu.
C'est déjà un peu démodé, quoi.
Le parquet mosaïque est déjà dépassé.
Alors ce parquet mosaïque, il est plus mince, peut-être?
Que le parquet massif, oui, trois fois plus mince.
Je crois qu'on peut... Vous me citiez un chiffre en préparant cette émission. Le rapport en volume entre le produit brut et le produit fini, c'est assez surprenant. Disons, quand on prend un mètre cube de meringue de châtaignier, on sort quel pourcentage de produits finis en volume?
Entre 20 et 30 % selon le produit.
Oui. Et ce produit se vend plutôt finalement au mètre carré et non pas au mètre cube.
Heureusement.
Oui. Donc vous avez intérêt à produire, à avoir des produits le moins massif possible. Est-ce que c'est pas... Ça a été déjà sans doute votre réflexion à l'époque, en 58.
Le moins épais possible, et nos réflexions ultérieures ont été d'apporter le maximum de valeur ajoutée au produit, qui ont fait que nous avons anticipé et créé des produits entièrement terminés.
La quantité produite a dû augmenter. Est-ce que vous avez eu parfois des problèmes de demande, d'approvisionnement, je veux dire, en châtaignier?
De façon durable, non. De façon très ponctuelle, oui, mais sans conséquence.
Et le séchage à l'air libre, ça, je suppose que ça a été abandonné?
Totalement depuis 50, depuis les années 50.
Oui. Alors, est-ce que ça ne pose pas un problème, les innovations, disons? Est-ce que celui qui innove ne risque pas de se tromper, mettons, de faire une installation de séchage qui marche mal, qu'il faut démolir 6 mois après? Est-ce que ça vous est arrivé, des choses comme ça, ou est-ce que ça aurait pu vous arriver?
Il n'y a que celui qui innove qui risque quelque chose. Par contre, il a un espoir, c'est de celui de réussir.
Est-ce que vous avez eu des collègues qui n'ont pas innové, qui finalement ont périclité et ont disparu?
Quasiment tous.
Alors, le parquet mosaïque, donc, qui, pour lequel, je crois, le séchage en étuve était obligatoire, et ce séchage qui durait 1 an et demi, il s'est fait en combien de temps?
Il s'est situé, et se situe encore aujourd'hui, autour de entre 8 et 15 jours.
8 et 15 jours. Oui. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux produits après, dans les années 60?
Oui.
Alors lesquels, peut-être ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous, mais ceux qui ont été le plus marquants.
Bon, disons que ça n'est pas. À proprement parler, pas de nouveaux produits, mais c'est des produits anciens tels que le parquet massif et les lambris qui ont été créés à l'époque et qui ont été rénovés du fait de leur application de vernis en usine.
Donc, il vous a fallu avoir un atelier pour mettre du vernis, quoi.
Il nous a fallu commencer à créer un atelier de toutes pièces et de façon vulgaire à l'époque pour.
C'est-à-dire, c'était des gens armés de pinceaux ou c'était plus perfectionné que ça, quand même?
C'était plus perfectionné que cela, même dès le départ. Mais enfin, ça n'avait rien, il n'y avait aucune mesure entre 1967, où nous avons débuté la fabrication, et aujourd'hui.